Voici une question dont nous devrions tous connaître la réponse. De quelle manière est-ce que Dieu nous parle de nos jours? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui aidera tous ceux qui le désirent de s'approcher de Dieu, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois que les questions qu'on va poser au Seigneur vont vous intéresser spécialement aujourd'hui. Elles vous ont probablement déjà traversé l'esprit, d'ailleurs. Et c'est merveilleux de savoir que la parole de Dieu va nous répondre avec exactitude. Voici les questions. Y a-t-il une limite à la patience de Dieu? Pouvons-nous être loyaux envers le Seigneur Jésus sans l'être envers ses serviteurs qu'il a placés au-dessus de nous? De quelle manière est-ce que Dieu nous parle de nos jours? Est-ce qu'on peut manipuler Dieu pour obtenir ce que l'on désire? Est-ce que les symboles de Dieu, comme par exemple l'arche du temps de Samuel, peuvent apporter une protection à un peuple? Quelle sorte de relation est-ce que Dieu désire avoir avec nous? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner en répondant à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, c'est tellement bon de venir à toi dans la prière, en sachant que tu nous entends et que tu désires nous donner ce qui est de meilleur. Alors enseigne-nous ta parole, parce que pour nous, c'est ça qui est le meilleur. On veut choisir la bonne part, celle qui vient de toi. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu la prière de louange qu'Anne a adressée à Dieu après la naissance de Samuel. Le garçon fut consacré à Dieu. Nous avons aussi appris qu'Élie fut beaucoup trop indulgent envers ses fils, lorsqu'il apprit qu'il couchait avec des femmes qui se rassemblaient au tabernacle. Alors Dieu envoya un prophète vers Élie afin que celui-ci lui reproche d'honorer ses fils plus que l'Éternel. Dieu lui annonçait qu'il confiait maintenant le sacerdoce à quelqu'un d'autre et qu'il le lui retirait ainsi qu'à ses fils. Les deux fils mourront le même jour, ce qui sera un signe que la parole du prophète vient de Dieu. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu se révélait rarement, mais cela commence à changer lorsqu'il appelle Samuel. Dieu cessera de gouverner par les juges et les prêtres. C'est par des prophètes qu'il parlera au roi. Et ceux-ci pourront le consulter par les mêmes prophètes. Versets 2 à 5. En ce même temps, Élie, qui commença à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place, et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Élie pense que Samuel a fait un rêve et le renvoie se coucher. Versets 6 et 7. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'était la première fois que l'Éternel s'adressait directement à Samuel, et celui-ci ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Certains se demandent si Dieu aurait appelé Samuel une cinquième fois, une sixième fois ou une septième fois. Jusqu'où est-ce que Dieu serait-il allé avec ses appels? Y a-t-il une limite à la patience de Dieu? Je pense que oui. Je pense qu'il y a un temps pour notre salut. Mais un jour vient où Dieu ne nous appelle plus et que nous sommes incapables de nous repentir pour venir à lui. L'aumônier de la prison a fait une longue visite à Hermann Göring, un criminel de guerre allemand, quelque temps avant sa date d'exécution. Göring s'est moqué de certaines vérités bibliques et il n'a pas accepté le fait que le Seigneur Jésus soit mort pour donner sa vie en rançon pour des pécheurs. Il a délibérément rejeté le Seigneur Jésus, même lorsque l'aumônier lui a parlé de l'espoir de revoir sa jeune fille au ciel. Cela n'a pas touché Göring. L'aumônier était découragé lorsqu'il l'a quitté. Moins d'une heure plus tard, il a appris le suicide de Göring. Dieu l'avait appelé à la repentance et il a répondu non. Dieu peut inviter une personne à la repentance de nombreuses fois, mais vient un jour où le cœur devient trop endurci. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Proverbe 29, verset 1er. Dieu ne retire jamais sa grâce, mais un homme peut lui résister et le rejeter jusqu'à l'endurcissement de son cœur. Il y avait deux larrons de chaque côté du Seigneur Jésus à la croix. L'un s'est repenti, afin que nous ne désespérions jamais, mais le Seigneur Jésus n'en a sauvé qu'un seul. L'autre larron est un avertissement, afin que nous ne présumions pas de la grâce de Dieu. Luc chapitre 2, verset 39 à 43. Quand Dieu nous appelle à la repentance, chers amis, repentons-nous. Versets 8 à 10. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » En répondant ainsi, Samuel se met en conversation directe avec Dieu. Désormais, Dieu se révélera par Samuel. Samuel a accepté la fonction de prophète. Versets 11 et 12. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. On ne peut être loyal envers Jésus sans l'être envers ses serviteurs. Dieu annonce à Samuel qu'il accomplira la malédiction qu'il avait prononcée sur la maison d'Élie, car ses fils avaient péché gravement, et Élie ne les avait pas réprimés, honorant ses fils plus que Dieu. Ses deux fils mourront le même jour, et tous ses descendants mourront dans la force de l'âge. Ils n'auront que des fonctions mineures dans le tabernacle. Samuel a fidèlement rapporté les paroles de Dieu à Élie. « Si vous servez Dieu sous les ordres d'un autre homme, demeurez loyal à cette personne plutôt que d'essayer de la supplanter. Nous ne pouvons être loyaux à Jésus sans l'être à son serviteur qu'il a placé au-dessus de nous. » Verset 21. L'Éternel continua à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Dieu se révèle à Samuel par sa parole. C'est ainsi qu'il se révèle à nous aujourd'hui. Son esprit nous illumine alors que nous étudions sa parole. Il le fait présentement à travers ses émissions. C'est ainsi que nous venons à connaître Dieu, en étudiant sa parole. Débutons la lecture du quatrième chapitre de 1 Samuel, les versets 1 à 3. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébénézer, et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu de façon magique. Le peuple s'est engagé dans une guerre sans consulter Dieu. Nous voyons l'état spirituel lamentable du peuple. Ils pensent qu'en apportant l'arche au combat, que Dieu livrera leurs ennemis entre leurs mains. Ils agissent comme des personnes autosuffisantes et égoïstes qui pensent manipuler Dieu pour obtenir ce qu'ils désirent. Leur cœur n'était pas droit devant Dieu, et ce n'est pas la présence de l'arche qui leur apportera les bénédictions de Dieu. Ils agissent comme des païens, superstitieux. Dieu n'était pas dans l'arche qui était un symbole de sa présence. Ce sont des cœurs repentants qui aiment Dieu, qui auraient amené Dieu à se manifester avec bienveillance et non un objet quelconque. Dieu attend que le cœur de l'homme se dispose à recevoir ses bienfaits. Nous-mêmes, nous agissons de façon superstitieuse. Lorsque nous nous appuyons sur des méthodes et des techniques plutôt que sur la personne même de Dieu. Ce n'est pas une méthode qui va régler nos problèmes. Ce qui compte, c'est que le Seigneur Jésus soit avec nous, parce que nous marchons dans ses voies. Nous lui sommes soumis. Versets 4 et 5. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'Alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. L'arche arrive dans le camp, et les Israélites se réjouissent. Ils se pensent spirituels, mais en fait, ils pratiquent une forme d'idolâtrie. Ils vénèrent le meuble et non Dieu. Faisons attention avec les rituels dans nos églises. Sur quoi nous appuyons-nous? Sur l'église? Sur un homme? Sur une méthode? Sur un lieu de culte? C'est Dieu que nous devons adorer, et c'est sur lui que nous devons nous appuyer. Il est la source de toute bénédiction. Versets 6 à 8. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent, « Que signifient ces grands cris? Qui retentissent dans le camp des Hébreux? » Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, » dirent-ils, « car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Les Philistins sont aussi superstitieux que les Israélites. Pour eux, l'arche est une idole. Quoiqu'ils aient entendu parler de la puissance de Dieu, ils ne connaissent pas le véritable Dieu vivant. Et nous, le connaissons-nous? Versets 12 et 13. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Malgré ses défauts, Élie était le grand prêtre et il se souciait du tabernacle de Dieu. C'est lui qui devait veiller. Versets 14 à 18. Élie, entendant ces cris, dit, « Que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, « Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Élie meurt en apprenant que l'arche est tombée entre les mains des Philistins. Ce n'est pas la nouvelle de la mort de ses fils qui a tué Élie, mais les nouvelles au sujet de l'arche. Quoiqu'il fût un homme faible et indulgent envers ses fils, il était un homme de Dieu, et son cœur était consacré à Dieu. Avec la mort d'Élie, c'est Samuel qui devient le porte-parole de Dieu. Les Philistins emportent l'arche et la placent dans leur temple. Les chapitres 5 et 6 racontent les événements qui se sont produits dans le pays des Philistins alors qu'ils avaient l'arche en leur possession. Ils se sont vite rendus compte que l'arche n'était pas un porte-bonheur. L'arche ne leur a pas porté les bénédictions de Dieu. Débutons notre lecture du 5e chapitre de 1 Samuel, les versets 1 à 4. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Dieu est le seul Dieu, il est le Tout-Puissant. Nous voyons le sens de l'humour de Dieu. Lorsque l'arche fut placée près de Dagon, l'idole des Philistins, Dieu a jeté l'idole face contre terre devant l'arche. Dieu a montré qu'il était le Dieu et que Dagon était impuissant contre lui. Après que les Philistins eurent relevé leur idole, Dieu la jeta par terre une deuxième fois et il la brisa. Les Philistins se rendent compte que l'arche leur attire des malédictions et que sa présence est néfaste pour eux. Versets 6 et 7. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Se rendant compte que ce malheur n'était pas le fruit du hasard, ils envoient l'arche dans la ville voisine. Versets 8 à 10. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent, « Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ?» Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Édroniens poussèrent des cris en disant, « On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple !» Plus personne ne voulait du trophée de guerre. Au début, les villes des Philistins ont dû se disputer l'arche. Maintenant, les Philistins perçoivent qu'ils sont sous le jugement de Dieu pour avoir osé s'emparer de l'arche. Versets 11 et 12. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent, « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. » Une image ou un symbole de Dieu ne nous apporte pas le bonheur ou la protection divine. Les Israélites ont perdu le combat malgré la présence de l'arche. Une illustration, une image de Dieu. Personne depuis la conquête du pays n'avait fait marcher l'arche devant l'armée d'Israël. L'arche n'était pas un moyen magique de manipuler Dieu. L'arche n'attira pas les faveurs de Dieu sur le pays des Philistins. En fait, elle leur attira un châtiment. Dieu n'allait pas permettre qu'on le mette sur un pied d'égalité avec Dagon. Il prouva qu'il était le véritable Dieu. Maintenant, les Philistins n'ont qu'une seule question. Comment retourner l'arche en Israël? C'est une relation personnelle que Dieu désire avec chacun de nous, et non une relation de manipulation magique ou superstitieuse. Dieu veut notre cœur, et lorsque nous le lui donnons, c'est alors qu'il nous bénit. Écoutez ce texte, tiré du livre des Actes, chapitre 17, versets 24 et suivant. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit, aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Actes chapitre 17, versets 24 à 31. Ce n'est pas le fait de posséder des objets quelconques, soi-disant bénis par Dieu, qui nous apportera la bénédiction et la protection. C'est Dieu lui-même. Dieu nous appelle à abandonner ses idoles et à nous tourner vers lui, vers celui qui est venu nous faire connaître le Père, le Fils, Jésus. Lui, il est vivant, lui, il est ressuscité, et Dieu nous invite à nous détourner de nos idoles et à nous tourner vers lui, vers Jésus, son Fils unique, pour avoir la vie éternelle. Et cela gratuitement. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Samuel, chapitre 6, verset 1er, à chapitre 8, verset 22.
Merci, Régent. C'est bien clair. Une image ou un symbole de Dieu ne nous apporte pas le bonheur ou la protection divine, tout comme l'arche n'attirait pas les faveurs de Dieu sur le pays des Philistins. Régent a terminé cette leçon en nous disant que ce que Dieu désire avoir avec nous, c'est une relation personnelle, et non une relation de manipulation magique ou superstitieuse. Dieu veut notre cœur, et quand on le lui donne, c'est alors qu'il nous bénit. J'ai déjà connu une dame qui disait qu'elle se sentait protégée la nuit parce qu'elle plaçait sa Bible sous son oreiller. Pauvre madame, On sait très bien que c'est en lisant, en méditant et en mettant en pratique ce qui est écrit dans la Bible qu'on apprend à connaître, à servir Dieu et qu'on apprend à le prier convenablement. Et plus on connaît Dieu, plus on lui demande des choses qui vont servir à sa gloire, même dans les choses matérielles. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de superstitions dans le monde. Il y a des gens qui portent des reliques. Il y en a qui croient que s'ils cassent un miroir, ils auront 7 ans de malheur. J'ai déjà cru à ça, d'ailleurs. Mais quand je suis arrivée à la connaissance de Dieu, tout a changé. Maintenant, je me confie en Dieu dans tous mes besoins. Et quand j'ai peur de quelque chose, je prie et je mets tout ça entre les mains de Dieu. Il n'y a rien de meilleur sur cette terre pour un être humain que de connaître Dieu et de lui appartenir, de jouir de sa présence. Mon ami, es-tu de ceux qui constatent que le monde n'a rien à offrir, qui peut satisfaire les besoins réels, c'est-à-dire la paix du cœur, la joie véritable, l'amour parfait et surtout l'assurance de passer l'éternité dans la présence de Dieu? Eh bien, je t'invite à mettre de côté toutes les méthodes techniques que le monde peut offrir pour un supposé bonheur, toutes les superstitions s'il y en a dans ta vie. Je t'invite à reconnaître que tu es perdu dans ce monde à cause du péché. Le péché, c'est la désobéissance face au commandement de Dieu. C'est l'autosuffisance alors que Dieu veut lui-même satisfaire tous tes besoins. Et le péché met un abîme entre le Créateur et sa créature. Mon ami, cesse de chercher à combler le vide par toutes sortes de moyens. Même la religion ne peut pas te donner ce dont tu as besoin. Or, tu vas peut-être dire que tu n'es pas si pécheur que ça, mais il est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, verset 10, que quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ça me fait penser à un pommier. Même s'il y a juste une pomme dedans, il demeure quand même un pommier. Mais si tu as commis juste un péché dans ta vie, tu es quand même un pécheur. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu ne veut pas te laisser sans lui dans le monde. Il veut rétablir la communication avec toi. Et c'est pour ça qu'il t'a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, tu ne passes pas l'éternité là où on mérite tous d'aller, mais que tu la passes avec lui dans son royaume, avec tous ceux qui auront mis leur confiance en Jésus seul pour le pardon de leurs péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Repens-toi, mon ami. Crois à la bonne nouvelle. Demande à Jésus de te sauver. Reçois-le comme ton sauveur, comme ton maître. Il frappe à la porte en ce moment. Demain, il sera peut-être trop tard. Pendant qu'il est temps, reçois ce beau cadeau qu'il t'offre.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épaté. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir, ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.